France Culture.
Das war ja fast so gewesen, 89, dann war ja die Grenze war auf.
1989, la frontière s'ouvre.
Eines Tages sind ja in Flensburg dann 33 Kleintransporter losgefahren, alles Richtung damals noch
33 Camionnettes qui quittent Flensburg, en direction de 33 villes d'Allemagne de l'Est.
Auf 33 Städte mit unzähligen Katalogen, die dann dort verteilt
chargé à rabord de catalogue Beate Uhse.
Offiziell für 5 Ostmark.
Also, officiellement, on pouvait les acheter pour 5 marques de l'Est. Les minibus s'arrêtent en plein centre-ville, sur la place du marché, là où il y a le plus de passages. Et des files d'attente se forment. On le voit sur des films, des photos. Jeunes, vieux, tout le monde était intéressé. Les catalogues s'arrachaient comme des petits pains. Très vite, on a rebaptisé ces camionnettes les sexomobiles.
Ce qui est sûr, c'est que du côté est-allemand en 1990, c'est-à-dire juste après la chute du mur et au moment où l'Allemagne se pose la question de sa réunification ou non, hein, dans ces quelques mois entre la chute du mur et la réunification en octobre 1990, les témoignages de l'époque font état d'une crainte, celle de l'imposition d'un modèle occidental agressif, capitaliste, aussi en matière de sexualité, hein, ce modèle commercial, ce que représente finalement Beate Uhse très très bien, avec ses minibus qui vont coloniser la sexualité des Allemands de l'Est.
Ça, c'était avant la réunification. Dès l'été 1990, elle a commencé à ouvrir des boutiques en RDA. Et le nom de Beate Uhse est devenu célèbre en Allemagne de l'Est.
Une histoire particulière, le premier sex shop. Une histoire allemande. Marie Chartron, Franck Lilin. Deuxième épisode, le marché de l'érotisme.
C'est vrai que quand on arrivait à Berlin, à la gare de Zoologischer Garten, qui était la grande gare à l'époque de Berlin-Ouest, on était à deux pas et on voyait ce grand bâtiment qui était dévolu à l'empire de Beate Uhse, son musée et sex shop, avec des grandes lettres roses sur deux étages, dans un endroit qui, de surcroît, était un quartier de gare.
Patrick Farge, historien.
Cette Beate Uhse, en investissant des lieux comme ça, les a rendus, évidemment, très visibles. Et pas seulement, parce que là, on parle de Berlin, mais pas seulement dans les grandes villes, Berlin, Francfort, Hambourg, mais aussi, son histoire, elle commence dans une ville qui n'a jamais eu le statut de grande ville, qui est une ville du nord de l'Allemagne, Flensburg, qui est une petite ville, une ville de province, dirait-on, en France, où elle a ouvert le premier sex shop dans les années 60. Donc, c'est vraiment très intimement lié à une histoire urbaine et à une histoire de la visibilité de la sexualité en zone urbaine.
Nous sommes donc à Flensburg, tout au nord de l'Allemagne, au siège d'Orion, société de vente d'articles érotiques par correspondance, avec Maike Rothermund, petite fille de Beate Rothermund, dite Beate Uhse.
Je crois que quand on travaille pour Orion, et de manière générale dans cette branche, on doit faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit et d'une grande tolérance.
Beate Uhse hat das mal in einem Interview, finde ich, sehr passend auf den Punkt gebracht.
Beate Uhse l'a très bien formulé dans une interview.
Was mir gefällt, sondern es geht immer darum, gefällt es den Kunden und können die, ne, ist der Kunde damit.
Elle a dit, il ne s'agit pas de savoir ce qui me plaît à moi, mais ce qui plaît au client.
Das ist ganz wichtig.
C'est très important de garder cette ouverture d'esprit.
dass man da eben auch
pour toutes sortes de jeux amoureux.
Spielarten der Liebe mitbringt. Aber ich glaube, wir lachen hier
on rit beaucoup viel, ici.
Weil wir mit Gegenständen zu tun haben, die für einige Leute vielleicht
sehr intim oder vielleicht les objets, qui sont très intimes. Sind,
wir sie aber im Alltag benutzen,
voir choquant, um
Fenster aufzuhalten oder als Türstopper. Oder,
et ces mêmes objets, on s'en sert aussi au quotidien de bloc-fenêtre ou de cale-porte.
Man musste dem Ganzen auch mit viel Humor.
Par exemple, on a fabriqué des décorations de Noël en latex.
Glaube, das ist das, was auch im Alltag das ausmacht, dass man
on peut aussi considérer tout ça avec beaucoup d'humour. Il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux.
Also zunächst muss man sagen, weiß man eben nicht,
wie der nächste Tag aussieht. Also, on savait pas de quoi le lendemain serait fait. Les Allemands ne savaient absolument pas où ils allaient pouvoir se procurer de la nourriture.
Unklar, wo sie jetzt etwas zu essen
herbekommen. Le marché noir était totalement illégal. Et comme dans beaucoup d'autres pays en guerre, il y avait un rationnement alimentaire. C'était des quantités minuscules, à peine suffisantes pour survivre. Tout ce qu'on possédait, en plus de ces rations, était en principe illégal. Donc la plupart des gens ont été obligés de transgresser la loi quotidiennement.
Quasi et ce, pendant des années. Und alltäglich über Jahre hinweg gegen das Gesetz zu verstoßen.
Harald Jenner, auteur et journaliste.
Und der Schwarzmarkt, der ist für mich so eine Art Staatsbürgerschule.
Pour moi, le marché noir est une sorte d'école citoyenne.
Man lernt,
on y apprend énormément, notamment la relativité des valeurs. C'est une expérience d'apprentissage fondamentale pour les Allemands qui étaient encore très disciplinés.
Extrem diktatorisch tickten
bis très marqué par la dictature nazie. Il y avait une forme de capitalisme déchaîné totalement incontrôlé sur le marché noir. On se faisait constamment arnaquer, sans pouvoir se plaindre à qui que ce soit, puisqu'on en était soi-même responsable. Et de l'autre côté, il y avait ce système de rationnement rigide, organisé par l'État, qui maintenait la population en vie au compte-gouttes. Dans la vie quotidienne, on oscille entre ces deux extrêmes. De là est né dans les années 50 ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, cette synthèse propre à la République fédérale entre capitalisme et régulation étatique.
Kapitalismus und staatlicher Regulierung.
Absolut. Aber wie gesagt, sie war sehr lange nicht die Einzige, aber sie hatte einfach marketingmäßig so die
Beate Uzo n'était pas la seule dans cette branche.
Hat sich da
mais elle avait un tel sens du marketing also que ça lui a permis de s'imposer.
Und durch personal branding.
Grâce à sa connaissance de l'économie et son sens de l'autopromotion.
Self-made woman verkauft und das hat funktioniert.
Elle a publié des brochures où elle se présentait comme une self-made woman. Et ça a marché.
Nadine Beck, chercheuse en histoire culturelle.
Il y a une série de photos où on la voit en combinaison de travail, en train d'astiquer sa voiture, je crois. Elle se met en scène comme une femme toute simple, comme vous et moi, qui doit aussi faire ce genre de
tâches,
mais qui s'y met à fond et qui peut aider, quelle que soit la situation.
Die eben auch solche Dinge machen muss, aber die anpackt und die einfach ja, helfen kann, egal in welcher Situation.
Ça la rend très accessible.
Das macht sie sehr nahbar. Und deswegen schreiben ihr auch ganz viele Menschen.
C'est pour ça que beaucoup de gens lui écrivaient pour lui confier leurs soucis et leurs peines.
Briefe finden sich heute
et ses lettres existent toujours. Elle les a toutes gardées.
Total gut. Was trieb denn
et là, on voit très bien ce qui préoccupait les gens dans l'Allemagne d'après-guerre.
Was waren denn die Ängste?
Leurs peurs,
was waren die Sorgen
leurs soucis,
und welche Themen
leurs besoins,
waren da? Und
sie hat les sujets qui les touchaient.
Also,
elle a saisi tout ça.
Impotenz waren da nur
la frigidité, comme on disait à l'époque, ou encore l'impuissance, les grossesses et les problèmes de couple,
eine der Themen, aber es gab halt
n'étaient que quelques thèmes aber, parmi plein d'autres.
Also vor allen Dingen sind das viele Fotos, Fotoalben.
On a surtout beaucoup de photos. Des albums que son fils nous a confiés.
Kirsten Schapper, archiviste.
Mais chez une personne comme Beate Uhse, le privé et le professionnel sont parfois difficiles à distinguer. Parce qu'elle a commercialisé sa propre biographie aussi.
Eine Firmenbiografie
pour promouvoir son entreprise.
Ja, und was auf jeden Fall sehr genial von ihr war, oder was ein genialer
oui.
Trick von ihr
son
war,
coup de génie, à la différence de tous ses concurrents, c'est qu'elle a été très tôt présente dans les médias.
War. Also, sie war dann eine Fernsehpersönlichkeit.
Elle était une personnalité de la télé, on connaissait son visage, sa voix.
Hat sie auch dafür gesorgt, dass auch alles,
elle a veillé à ce que tout ce qui était publié par les éditions Beate Uhse soit archivé à la Bibliothèque nationale.
Das heißt auch für die Generation danach
donc, conservé pour les générations futures.
Insofern, ja, hat sie ihre Legacy einfach gleich von Anfang an mitgestaltet.
Dès le début, elle a œuvré à sa postérité.
Catherine Rönicke, autrice et journaliste.
Die Beate Uhse-Story beginnt eigentlich damit, dass es so
le récit officiel Beate Uhse commence en donnant l'impression qu'elle était pionnière, l'une des rares précurseurs dans ce domaine. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Après la guerre, à l'époque où elle a commencé la vente par correspondance d'articles érotiques, il y avait déjà plus de 100 autres entreprises qui vendaient aussi des préservatifs et autres articles sexuels comme elle.
Je pense que ça a été beaucoup plus simple pour moi que pour un homme. Je crois qu'on prête bien plus facilement à un homme des intentions négatives et des pensées dégueulasses qu'on le fait avec une femme mariée qui a des enfants et donc qui n'ignore rien de toutes ces questions. On lui fait plus facilement confiance. Jan Kirchner, journaliste.
Il y a eu de nombreux procès. Et dans un jugement, on peut lire que l'entreprise Beate Uhse s'y prend de la même manière pour s'immiscer dans la vie privée des gens que le ferait une publicité de lessive contre les taches tenaces ou un insecticide pour éliminer les puces, les poux ou les punaises de lit.
On a là deux classeurs d'avant 1975.
Also 1951 war die Firmengründung, das
1951,
ist der
création de l'entreprise.
Rubrique, Gutachten und
c'est le classeur le plus ancien pour les rubriques expertise et procédure.
Freispruch. Also
acquittement. Diffusion d'écrits obscènes.
Verbreitung unzüchtiger Schriften. Verbreitung jugendgefährdender Schriften.
Diffusion d'écrits dangereux pour la jeunesse.
51 im Juli, dann im Juni
1952.
Ein Jahr später.
Un an plus tard, puis 1954, 1956, 1958. Des plaintes, des poursuites, presque une fois par an, si on résume.
Sie hat im Laufe ihrer Arbeit über 2000 staatsanwaltliche Initiativen untersucht.
Au cours de sa carrière, elle a fait l'objet de plus de 2000 enquêtes du ministère public.
Zu 700 Verfahren,
qui ont conduit à 700 procès, qu'elle a presque tous remportés parce qu'elle avait d'excellents avocats.
Weil sie auch sehr gute Anwälte hatte, aber sie war natürlich extrem.
Elle était très controversée, précisément parce qu'elle n'opérait pas dans le secret.
Und zwar gerade, weil sie nicht so im Geheimen operiert hat. Sie war das, was man eine
schamlose pudique, au sens positif du terme.
Durchaus im positiven Sinne. Und für die Staatsanwaltschaft
pour le ministère public, en revanche, elle était impudique au sens négatif du terme.
Enorme reaktionäre Elemente noch
d'un côté,
aus der NS-Zeit, aber auch,
il y avait encore énormément d'éléments réactionnaires hérités de l'époque nazie.
Eine Biederkeit der Republik, die man nicht aufs Spiel setzen
de l'autre, la moralité petite bourgeoise retrouvée de la République qui ne devait pas être mise en péril par ses obscénités.
Et tout dans son attitude,
Le visage ouvert, les cheveux courts, un peu comme un lutin, toujours de bonne humeur. Tout provoquait la colère des forces réactionnaires et grincheuses de la Nouvelle République. On ne supportait pas que quelqu'un se présente avec autant d'assurance pour vendre des produits érotiques.
Also diese Public Relations Arbeit war auf jeden Fall sehr erfolgreich.
Ce travail de communication a très bien marché.
Und ein weiterer Bestandteil, der dann später der Story erst hinzugefügt
wurde. Un autre élément ajouté plus tard à son récit.
War ihre
dans les années 70, c'est sa carrière dans la Luftwaffe.
Darüber hatte sie die ersten Jahrzehnte, die sie
pendant les premières décennies de son activité commerciale, elle est restée plutôt silencieuse là-dessus.
Man hat dann eben versucht, so ein bisschen.
Et puis, on a essayé de mettre en avant non pas son rôle pendant le nazisme,
oder die Rolle im Nationalsozialismus zu betonen, sondern
mais
die Freiheit beim Fliegen
und la liberté de voler.
Eine kühne Persönlichkeit muss man sein, um Pilotin zu werden.
L'audace qu'il fallait pour devenir pilote.
Natürlich auch als Frau, also
surtout
als Frau
en tant que femme dans une profession très masculine.
Métier unterwegs zu sein. Und irgendwie ist es ja auch
c'est quand même sexy,
wenn jemand
savoir piloter un avion.
Flugzeug fliegen kann. Also, und diese Geschichte, dass sie Hauptmann der Luftwaffe war, wurde auch manchmal
mais
schon.
Le fait qu'elle ait été capitaine dans la Luftwaffe a parfois été aussi utilisé devant les tribunaux.
Gerade bei den Gerichten, also gerade wenn es darum geht,
il faut bien comprendre qu'en Allemagne,
wer hat welchen Posten bei Gericht inne, war
quand on regarde qui occupait quel poste et en particulier dans les tribunaux,
gut gelaufen. Also gerade in den Gerichten, an vielen anderen Stellen in der Gesellschaft,
on constate que la dénazification ne s'est pas déroulée de manière totalement parfaite.
Im NS eine Rolle gespielt haben.
C'était différent dans bien d'autres domaines de la société, mais dans les tribunaux,
also da gibt es auch Literatur
il y avait beaucoup de fonctionnaires qui avaient joué un rôle sous le nazisme
da dann
et qui pouvaient encore avoir des sympathies
ja,
idéologiques.
Eine Sympathie hatten für Hitler,
c'est
für den
très bien décrit dans des travaux de recherche.
Diese Karte zu spielen und zu sagen, ich habe im Krieg gedient. Ich bin
donc,
als Hauptmann der
face à ces juges potentiellement sensibles à Hitler ou à la guerre, jouer la carte de « j'ai servi pendant la guerre », j'étais capitaine dans la Luftwaffe, j'ai risqué ma vie en tant que femme. Cela pouvait éventuellement lui attirer des sympathies et l'aider à gagner ses procès.
Und in dieser
à cette époque, milieu fin des années 60, la loi a vraiment commencé à changer. En novembre 1969, on a ce qu'on appelle le jugement de l'orgasme de Beate Uhse, avec deux aspects dans ce procès. D'un côté, des préservatifs stimulants interdits, c'est-à-dire des préservatifs avec des petits picots, par exemple, ou d'autres formes, qui ne protègent pas seulement contre la grossesse ou les maladies, mais qui sont aussi censés stimuler la vulve. Et de l'autre côté, l'orgasme féminin. Elle est poursuivie en justice, mais elle est acquittée parce qu'un expert en sexologie démontre que le pire que ces préservatifs stimulants ou autres objets qu'on appellerait aujourd'hui des sextoys, le pire donc que ces produits puissent provoquer, c'est un orgasme.
Also das Maximum, was es erreichen kann, ist ein Orgasmus. Und der weibliche Orgasmus
et que l'orgasme féminin,
richtig, richtig
c'est important, c'est légitime, c'est bien et c'est même nécessaire.
Weiter passieren.
C'est ce qui peut arriver de plus grave.
La photo que j'ai sous les yeux montre Beate Uhse avec son avocat dans un tribunal. Donc ça fait référence évidemment à tous les procès auxquels elle a été confrontée, notamment parce qu'elle est devenue la figure de proue d'un certain contre-ordre moral dans une Allemagne de l'Ouest qui cherchait à être très pudibonde et très prude à nouveau. Elle est entourée d'hommes, donc c'est une femme qui se défend dans un monde d'hommes, ça aussi ça joue pour comprendre le personnage qu'elle a créé et le personnage qu'elle a défendu dans l'espace public allemand. C'est une femme qui sait en tout cas ce qu'elle fait. C'est une femme qui a une très haute connaissance de la puissance médiatique de ce qu'elle dégage et qui en a joué toute sa vie. Elle est très forte en marketing commercial de ses produits, mais elle est aussi très forte en auto-marketing.
Also Beate Uhse hat natürlich, weil sie eben diese Nase für Ökonomie hatte,
grâce à son sens des affaires, Beate Uhse a bien sûr tout de suite senti qu'avec la chute du mur, un marché complètement inexploité s'ouvrait. Parce que l'article 125 du Code pénal de l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, interdisait que toute forme de pornographie, d'images de nus, de marchandises érotiques ou d'aide sexuelle, comme les vibromasseurs, passe la frontière. Et c'était interdit d'en fabriquer sur place.
Der Blick von der BRD auf die DDR war eventuell der, die haben nichts.
Donc l'Allemagne de l'Ouest regardait l'Allemagne de l'Est en se disant, ils n'ont rien, on va leur apporter quelque chose.
Sehr arrogant.
C'était très arrogant.
Und sie ist ja dann mit ganz vielen kleinen Bussen.
Beate Uhse a donc envoyé ses nombreuses camionnettes à l'Est et distribué ses
catalogues. Kataloge verteilt und alleine die Kataloge galten schon als
qui étaient déjà en eux-mêmes considérés comme des objets de valeur.
Eigentlich sind es ja kleine
parce que d'une certaine manière
Magazine, wenn man es so möchte.
Ce sont de petits magazines porno.
Es werden zwar Waren angepriesen, aber eben mit sehr viel Nacktheit.
Ja, das sind wir
so. On a commencé à travailler à cette époque. Oui, le 1er décembre 1989. Et le mur était tombé le 9 novembre.
Und die,
je venais d'être embauché.
Hier, da bin ich gerade angestellt worden. Und
et il y avait une montagne de courriers qui arrivaient d'Allemagne de l'Est. Orion avait passé des annonces dans les journaux et mis des petits coupons qui permettaient de commander des magazines, des vidéos pour deux marques.
Und dann kam die
et puis les lettres sont arrivées. Parfois, elles contenaient seulement les coupons qu'on traitait. Mais beaucoup de gens écrivaient aussi de vraies lettres. Ils demandaient des catalogues. Mais racontaient aussi un peu leur vie. Je n'oublierai jamais. On a reçu une lettre et on a sorti un billet de 1000 marques de l'enveloppe.
1000 marques.
1000 marques. Incroyable. Ils sont complètement fous. Oui, les gens ont beaucoup commandé. Je me souviens que les caisses jaunes de la poste étaient remplies de courriers et empilées jusqu'au plafond. Que des commandes. Ça suscitait énormément de curiosité à ce moment-là. J'ai aussi entendu des récits de militantes féministes de l'Ouest qui voulaient faire de l'éducation sexuelle à cette époque. Elles apportaient des gonnichets et des sextoys et se lançaient dans un long développement introductif devant un public de femmes nées et socialisées à l'Est. Et les femmes leur disaient « Oui, oui, bon, ok, pas besoin de nous faire un long discours. Montre-nous plutôt la marchandise. »
Bien
sûr qu'elle était une femme d'affaires. Et avec le temps, l'entreprise s'est de plus en plus tournée vers les hommes. Surtout à la fin, quand elle s'est lancée dans le secteur de la pornographie, qui s'adressait surtout aux hommes. Donc c'est évident que Beate Uhse est controversée, au moins parmi les féministes.
Also bis Anfang der 70er Jahre war Pornographie per se in Deutschland verboten.
Jusqu'au début des années 1970, la pornographie était interdite en Allemagne.
War vor allem die Firma Beate Uhse
quand la loi a changé, l'entreprise de Beate Uhse a tout de suite réagi. Elle a créé sa propre société de production, ses propres cinémas pour s'implanter la première sur ce marché.
So wie es Beate Uhse eigentlich immer gemacht hat mit
comme elle l'avait toujours fait, dès qu'un nouveau marché s'ouvrait.
Das war nicht Beate Rotermund, also die
et plus précisément, ce n'est pas Beate elle-même, directrice de l'entreprise, qui a développé massivement le secteur pornographique, mais c'est surtout son fils, Uli.
Das war vor allem ihr Sohn, Uli.
Sous son impulsion, c'était désormais le regard masculin qui dominait.
Ein männlicher Blick in der Firma Beate Uhse bestimmt hat.
Les films répondaient aux fantasmes masculins.
Also es werden die Wünsche,
les femmes y apparaissaient surtout comme des objets destinés à satisfaire ces fantasmes.
Gestellt, und Frauen sind eigentlich nur Objekte, die dazu
parfois
sind,
maltraités dans ces mises en scène.
Die auch nicht immer gut behandelt werden in solchen Filmen.
À partir de là, le regard féminin sur la sexualité, qui avait longtemps été central dans l'entreprise Beate Uhse, a perdu de son importance.
So kam es, dass dann eigentlich zwischen Beate Uhse und den damaligen
La relation entre Beate Uhse et les féministes de l'époque a pris un tour assez particulier.
War kein Krieg, also Beate Uhse
pas vraiment une guerre,
die für durchgezogen und hat weitergemacht.
Parce que Beate Uhse a tout simplement poursuivi sa route et continué à vendre ses produits.
Und sowas gesagt wie, naja,
mais il lui arrivait d'y faire allusion dans ses interviews en disant quelque chose comme
« Mir geht's darum, Geld zu machen.
Je ne suis pas Jésus, je suis entrepreneuse. Mon but, c'est de gagner de l'argent. »
Dachte, was für eine tolle Geschichte. Also eine
Au début,
Frau,
je me disais, quelle histoire formidable. Une femme au destin très inhabituel.
Pilotin werden.
Pas du tout un itinéraire classique de femme pour l'époque. Devenir pilote et puis créer une entreprise.
Also das war das Bild, das ich hatte, als ich angefangen
faire avancer l'éducation sexuelle en Allemagne. C'était l'image que j'avais en commençant mon livre.
Mir natürlich gefallen. Also es ist ja ein Bild der Emanzipation.
Ça me plaisait. C'était une vraie figure de l'émancipation, une combattante, une femme qui luttait contre les tabous.
Oder das sind alles
bref, des idées et des valeurs que beaucoup de féministes partagent.
Und dass ich sehr kritisch geworden bin und immer
mais au fil de mes recherches, j'ai fini par être très critique en me rendant compte peu à peu que beaucoup de choses que Beate Uhse avait faites n'étaient pas si féministes que ça.
Und ich finde es aber auch interessant, weil es eigentlich eine sehr
deutsche
Geschichte ist. Also eine,
parce que finalement, c'est une histoire très allemande.
Sie ist einfach eingebettet in eine Gesellschaft, die
elle s'enracine dans une société misogyne, fortement hostile à la sexualité après la guerre.
Ja, nach dem Krieg eine starke Sexfeindlichkeit herrschte.
On retrouve des personnes qui luttent contre ça, qui ont un véritable besoin de libération. Et Beate Uhse y a contribué.
Da war sie eine wichtige Person.
Elle a été une figure importante, même si elle n'était pas la seule.
Als das sozusagen geschafft war,
et puis, une fois cette étape franchie,
als man auch so ein Stück weit wieder aufgebaut
pour ainsi dire, une fois l'ancienne Allemagne partiellement reconstruite, alors le profit est devenu la seule priorité.
Man macht ihr das zum Vorwurf, man findet
es irgendwie nicht
cool, aber wenn man ganz genau hinschaut, ist das eben eine Geschichte, wie sie in Deutschland
hundertfach passiert
ist bei vielen Unternehmen. Sie ist eben tatsächlich keine Ausnahme an der Stelle.
C'est une histoire qui s'est répétée des centaines de fois en Allemagne.
C'était une histoire particulière, le premier sex shop, une histoire allemande. Deuxième épisode, le marché de l'érotisme. Avec Ulrike Alisch, Nadine Beck, Patrick Farge, Harald Jener, Tanja Johansen, Jan Kirchner, Catherine Rönicke, Maike Rottermund et Kirsten Schapper. Merci à Dörte Fiedler, Michael Lissek et Südwest Rundfunk pour les archives de Beate Uhse, ainsi qu'à Nadine Rose-Flohr, Horst-Dieter Adler et Baptiste Coulmont. Voix, Hélène Losser, Catherine Boguet et Daniel Koenigsberg. Prise de son, Clément Vuillet, Bruno Mourland, Cédric Châtelus et Marie Le Peintre. Mixage, Éric Villenfin. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Marie Chartron réalisé par Franck Lilin.